Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui Grégory Pless pour vous accompagner pendant une heure d'émission en français. On fera aussi le tour, comme tous les mardis, des dernières actualités de la semaine en France. Jean-Noël Ducasse nous présentera le magazine des sports. Et puis on reviendra en fin d'émission sur l'histoire d'une chanson, en fait plus précisément d'une musique, et comment celle-ci a changé la vie de son compositeur. Mais tout de suite, place à l'actualité, c'est l'heure du journal. À la une de l'actualité de ce mardi 12 janvier 2021. Après l'intrusion au Capitole la semaine dernière, Donald Trump est visé par une procédure de destitution. Israël, pour sa part, est champion du monde de la vaccination contre le Covid-19. Et puis en Australie, il faut désormais un permis pour entrer dans le Victoria depuis les zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud. Donald Trump restera-t-il à la Maison-Blanche jusqu'au terme de son mandat le 20 janvier prochain? Au Capitole, les représentants démocrates ont déposé une motion de destitution. Elle fait suite à l'intrusion du Parlement américain par des partisans de Donald Trump la semaine dernière. Et cette motion de destitution, elle l'accuse notamment d'avoir incité à l'insurrection. Qu'est-ce qui est précisément reproché au président sortant et que risque-t-il? On retrouve Anne Corpé à Washington pour faire le point.
Donald Trump a menacé l'intégrité du système démocratique, fait obstacle à la transition pacifique du pouvoir et mis en péril une branche égale du gouvernement, peut-on lire dans l'acte d'accusation déposé ce lundi matin à la Chambre. Et le texte conclut, Donald Trump, par sa conduite, a démontré qu'il restera une menace pour la sécurité nationale, la démocratie et la Constitution s'il est autorisé à rester en fonction. Cet acte d'accusation pourrait être soumis au vote dès mercredi à la Chambre. Un procès sera ensuite engagé au Sénat, mais il ne pourra pas débuter avant le 19 janvier, soit à la veille de l'investiture de Joe Biden. Ce procès, s'il a lieu, se déroulera donc une fois que le président aura quitté la Maison-Blanche. Si Donald Trump est reconnu coupable, il ne pourra plus se présenter à la présidence des États-Unis et ne touchera pas sa retraite de chef d'État. Anne Corpé, Washington, RFI.
On vient donc d'écouter les explications d'Anne Corpé, correspondante permanente de RFI à Washington. Et pendant ce temps-là, Donald Trump, lui, compte se rendre aujourd'hui à Alamo, dans le Texas, un déplacement qui doit vanter les mérites du mur qu'il a fait construire le long de la frontière mexicaine. Une opération de communication aussi, alors que Donald Trump a été banni à vie des réseaux sociaux Twitter et Facebook. On va écouter sur ce point l'analyse de James Cohen. Il est professeur spécialiste de la politique migratoire américaine à l'université Sorbonne Nouvelle.
Je pense que c'est une façon de faire du spectacle là où il en aurait moins, parce qu'il est coupé de la plupart de ses plateformes habituelles. J'ai noté que ni le gouverneur ni le vice-gouverneur du Texas ne vont l'accompagner. Normalement, il l'aurait fait, mais il est devenu quand même un peu toxique, même auprès des républicains qui gouvernent cet État. Donc, il va là pour essayer de se donner un petit bain de foule et de montrer ses merveilleuses réalisations dans ses derniers jours au pouvoir. C'est tout simplement du spectacle, à mon avis. Je pense qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Je pense qu'il va continuer jusqu'à la fin de ses jours à prétendre que l'élection lui a été volée par je ne sais quelle fraude. Et il va essayer de faire exister une base militante à droite ou dans les marges de droite du Parti républicain. Il y a lui, mais il y a aussi des sénateurs et des représentants qui sont encore en exercice et qui vont essayer eux aussi de consolider cette frange extrémiste du Parti républicain.
Et en Australie, les débordements de ces derniers jours aux États-Unis ont fait dire des bêtises à certains politiciens australiens. C'est par exemple le cas du Premier ministre par intérim, Michael McCormack, qui a comparé les émeutes du Capitole avec les manifestations Black Lives Matter. Le parallèle a choqué de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme. C'est par exemple le cas d'Amnesty International qui a demandé à Michael McCormack de rétracter ses propos. Mais au contraire, sur la chaîne ABC, il les a maintenus et il a rappelé qu'il dénonce toute forme de violence.
Any form of violence, any form of protest that ends in death and destruction is abhorred. And you know, I know this is very difficult for the United States as it goes through great change. But you know, any form of protest, whether it's a protest over racial rights or indeed what we've seen on Capitol Hill in recent days, is condemned and is abhorred.
Dans le reste de l'actualité, une équipe d'experts mandatée par l'Organisation mondiale de la santé va bientôt pouvoir se rendre en Chine pour enquêter sur les origines du Covid-19. Cette enquête, elle avait été décidée en mai dernier par l'Assemblée générale de l'OMS. La Chine, elle l'avait acceptée à contre-cœur. Elle faisait depuis des mois traîner la mise en route de cette enquête. Le problème semble désormais résolu. À la satisfaction de Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, il rappelle que le cœur de la mission qui s'apprête à démarrer, c'est de découvrir comment le virus se transmet à l'homme.
Studies will begin in Wuhan to identify the potential source of infection of the early cases. Scientific evidence will drive hypotheses, which will then be the basis for further long-term studies. This is important not just for COVID-19, but for the future of global health security and to manage emerging disease threats with pandemic potential.
Et dans la lutte contre la pandémie, il y a un pays qui se démarque, c'est Israël, qui apparaît depuis quelques semaines comme un véritable champion de la vaccination. 2 millions de personnes dans ce pays ont déjà reçu au moins une dose du vaccin, soit 20% de l'ensemble de la population. Et une nouvelle livraison du vaccin Pfizer vient d'arriver dans le pays qui compte encore accélérer sa campagne de vaccination. Sur place, on va faire le point avec le correspondant de RFI en Israël, Sami Boukhelifa.
Objectif, vacciner 170 000 personnes par jour. À ce rythme-là, l'État hébreu sera le premier pays à sortir de la crise, prédit le premier ministre israélien. Sur les plateaux de télévision pour se faire vacciner et donner l'exemple, ou sur le tarmac de l'aéroport international Ben Gurion pour réceptionner les nouvelles doses de vaccins, Benjamin Netanyahou fait feu de tout bois. « Nous sommes un modèle pour les autres pays », se vante le chef du gouvernement sur son compte Twitter. « L'Europe souhaiterait profiter de notre expertise », se réjouit-il. Car en matière de vaccination, le système israélien est efficace. L'approvisionnement est garanti. Israël a conclu des contrats avec les laboratoires Pfizer-BioNTech et Moderna, 14 millions de doses pour 9 millions d'habitants. Les livraisons sont hebdomadaires. Le stockage est au point, les hôpitaux ne sont pas encombrés par des millions de candidats au vaccin. Ce sont les caisses des assurances maladie israéliennes qui gèrent la logistique. Les populations à risque ont été vaccinées en priorité. Les autorités sanitaires étudient désormais la possibilité d'ouvrir les centres de vaccination 24 heures sur 24. Sami Boukhelifa, Jérusalem, RFI.
Direction maintenant la Russie qui vient de signer un pacte avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan destiné à développer les relations économiques mais aussi les infrastructures dans toute cette sous-région. C'était la première fois que les dirigeants azerbaïdjanais et arméniens se rencontraient depuis la signature d'une trêve entre les deux pays en novembre dernier. Les deux pays, on le rappelle, qui se sont déchirés ces dernières semaines à propos d'une région qui s'appelle le Haut-Karabakh. Alors ces deux chefs d'État se sont vus, ils ont néanmoins refusé de se serrer la main. Le président russe Vladimir Poutine, pour sa part, veut croire que cet accord apaisera les tensions entre ces deux pays.
The pact that we signed today reveals our confidence, as the ceasefire agreement also included removing obstacles in transportation. That will speed up the region's development and improve security. Transport infrastructure will benefit the people of Azerbaijan, Armenia, and Russia. We need to think about the future, about how we will continue to live as neighbors, and how we can increase our efforts to ensure regional stability and security.
Et sur la côte du nord de l'Afrique, les Libyens se rendent aux urnes aujourd'hui à l'occasion des élections municipales qui ont ouvert dans tout l'est du pays. Pour l'occasion, la journée a été déclarée fériée en Libye. Les électeurs, eux, espèrent que ce seront les plus compétents qui seront élus.
The elections are a time when the people choose who will serve them. And they are the ones who choose the fittest person in society to be serving in the municipality. Because the municipality is considered similar to the directorate, it must provide services. And who provides those services? Those nominated members of the municipality. They must be honest, and people must choose the right person for the right job.
Plus de 50 pays à travers le monde viennent de s'engager à protéger près d'un tiers de la planète d'ici à 2030, et ce pour enrayer la destruction des habitats naturels, mais aussi la disparition d'un certain nombre d'espèces menacées. Cet engagement, il a été pris à l'occasion du sommet One Planet qui s'est déroulé à Paris, mais en fait qui s'est surtout déroulé en ligne. Mené de front trois combats, d'abord contre la pandémie de Covid, puis contre la disparition de la biodiversité, et puis contre le ralentissement mondial de l'économie. C'est une tâche difficile, mais pas insurmontable, d'après Antonio Guterres. C'est le secrétaire général des Nations Unies, écoutez-le.
Pandemic recovery is our chance to change course. With smart policies and the right investments, we can chart a path that brings health to all, revives economies and builds resilience and rescues biodiversity. Innovations in energy and transport can see a sustainable recovery and economic and social transformation. And nature-based solutions, such as the Africa's Great Green Wall, are especially promising. Preserving the world's biodiversity also yields jobs.
De retour en Australie, plus précisément dans le Queensland, où aujourd'hui on recense trois nouveaux cas de Covid-19, parmi lesquels deux sont des voyageurs de retour et actuellement placés en quarantaine à l'hôtel. Alors ça ne fait du coup qu'un seul nouveau cas de transmission locale. Néanmoins, la directrice de la santé du Queensland invite malgré tout la population à rester prudente. Elle estime que les risques de transmission locale n'ont pas encore complètement disparu.
So I am asking people who went to any of the venues that he went to please immediately come forward and get tested. The risk is low, but the risk is there. So I really ask you to come forward. So those two venues he went to, on the 5th of January, he went to the Bunnings warehouse at Acacia Ridge between 2 p.m. and 2:40 p.m. Then the next day, on the 6th of January, he went to the Sunnybank Cellars at Hellowell Road in Sunnybank Hills between 2:05 and 2:15 p.m.
Brisbane est donc sorti d'un confinement qui aura duré 3 jours. En revanche, certaines restrictions sont maintenues. Le port du masque, par exemple, reste obligatoire dans tous les lieux clos du Grand Brisbane. Et le non-respect de cette mesure vous expose à une possible amende. C'est ce qu'a rappelé Steve Goldschewski, le chef adjoint de la police du Queensland.
If people want to intersect with our police officers and not have any issues, but also do the right thing, please carry a mask at all times and wear it when you should. So the onus is on all of us as members of the community to understand what the requirements are about wearing the masks. Our police will continue to carry and offer masks to those persons that don't have them when they should. We will always give people the opportunity to comply with the directions. However, if people choose not to do that, there are strict penalties that apply and up to a $1,300 fine could be imposed.
5 nouveaux cas de transmission locale du coronavirus détectés en Nouvelle-Galles du Sud. Gladys Bérégé-Client, qui dirige l'État, souhaite que le nombre de dépistages quotidiens reste au-dessus de 25 000. C'est d'après elle le meilleur moyen de garder un temps d'avance sur le virus.
It's so critical that we raise those testing levels. 14,700 isn't really enough for where we're up to in the pandemic. And whilst all of us have been so vigilant and so good in getting those testing rates up, we need to maintain that again to make sure we manage to get on top of the rumblings that are still there.
Et les nouvelles sont plus positives dans l'état du Victoria qui enregistre aujourd'hui son sixième jour consécutif sans aucun nouveau cas de Covid. En revanche, les personnes qui voudraient se rendre dans le Victoria depuis la Nouvelle-Galles du Sud, en tout cas la partie rurale de la Nouvelle-Galles du Sud, doivent désormais se munir d'un permis spécial. Pour l'obtenir, il faut se rendre sur le site internet de Services Victoria. Et puis pour finir, on fait un point sur la météo du jour en Australie. 33 degrés et du soleil à Perth. Beau temps également à Adélaïde où il fait aussi 30 degrés. 22 degrés à Melbourne où le temps devrait se dégager dans la journée. Grand soleil en revanche depuis ce matin à Sydney où il fait 29 degrés. 29 degrés aussi mais sous les nuages pour Brisbane et jusqu'à 34 degrés aujourd'hui à Darwin.
Journal des sports de ce mardi, le Dakar endeuillé par la mort de Hubert Auriol, un ex-champion du rallye sur 2 et 4 roues qui est décédé des suites d'une maladie, d'un accident cardiovasculaire. Il avait 68 ans. Son parcours avec Olivier Pron pour Radio France Internationale.
C'est sa naissance à Addis Abeba en Éthiopie en 1952 qui avait valu à Hubert Auriol son surnom. De lui, le grand public a surtout retenu des larmes. En 1987, à la veille de l'arrivée du Dakar, qu'il a déjà remporté deux fois sur deux roues, en 81 et 83, il est à la lutte avec Cyril Neveu pour une troisième victoire. Trop de risques pris dans un sous-bois, il se fracture les deux chevilles entre deux arbres. Au mental, et malgré la douleur, il parvient à franchir la ligne d'arrivée en sanglots avant d'abandonner. La moto, c'est fini, place à l'auto. Hubert Auriol devient en 92, le premier pilote à remporter l'épreuve sur deux, puis quatre roues. Il deviendra ensuite cinq fois champion du monde des rallyes. Le monde, il en fait même le tour. En avion à hélice à la fin des années 80, à l'assaut avec trois partenaires du record du milliardaire Howard Hughes, qui datait de 1938. Là encore, objectif atteint. L'affaire est bouclée en un peu plus de 88 heures, un temps toujours de référence. Après avoir cessé de piloter, l'Africain dirigera le Dakar pendant 9 ans, créera l'Africa Race dans les années 2000 pour revenir aux origines de la course et deviendra animateur à la télévision, présentant la première saison de Koh-Lanta sur TF1. Avec le décès d'Hubert Auriol, le sport automobile français perd l'un de ses derniers aventuriers.
Et le Dakar, n'oubliez pas les meilleurs moments du rallye, c'est sur la télévision SBS tous les jours à 17h30. Le Vendée Globe, Charlie Dalin est passé en tête devant Yannick Bestaven. À la troisième place se trouve Thomas Ruan. On écoute quelques réactions des skippers sur European Broadcasting Union. Isabelle Josquet qui a dû abandonner la course.
C'est pas un dimanche comme les autres à bord de MACSF. Hier, le système de blocage de maquis s'est cassé. Et depuis, ma quille pendule sous le vent. Donc il faut que je navigue le plus à plat possible avec un bateau très stable et avec le moins de roulis possible.
Salut Isabelle, j'ai appris ce matin ton abandon dans cette course et je voulais te témoigner déjà la déception que j'ai vue quand j'ai vu que tu avais abandonné sur des problèmes techniques.
J'ai passé la nuit à étanchéifier le bateau parce qu'il y a une voie d'eau. J'ai écopé, j'ai pompé. Et là, j'ai réussi à limiter l'entrée d'eau. Pour l'instant, je navigue sous trinquette seule. J'ai affalé ma grand voile. Et le bateau avance quand même à plus de 10 nœuds. C'est pas idéal pour protéger sa quille, ça. Maintenant, le plus important, ça va être de rallier un port et de mettre le bateau en sécurité et de me mettre moi en sécurité.
On passe au foot en France. Pas de match dimanche, mais Lyon a été sacré champion d'automne ou d'hiver, si vous voulez. Explication de Christophe Dirimzian pour RFI.
12 saisons que l'OL n'avait pas décroché, non pas la FEF, ce statut symbolique de champion d'automne, puis hivernal cette année. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu qu'il ne l'obtienne pas en fait, car c'était mal engagé à Rennes lors de cette 19e journée. Mené 2-0, les Lyonnais ont rattrapé le coup dans les 10 dernières minutes pour revenir à 2 partout et assurer le point qui les maintient en tête du classement. Ça n'était pas le match idéal pour démontrer la forme des Rodaniens invaincus en championnat depuis la première journée. L'OL champion d'automne pour un point d'avance sur le PSG, large vainqueur de Brest 3-0 au Parc des Princes pour la première de Mauricio Pochettino sur le banc à domicile. Les Bretons n'ont pourtant pas démérité, ils ont vraiment cherché à jouer, estime leur gardien Gauthier Larsonneur.
On a montré qu'on a essayé de tenir tête au PSG sans forcément rester devant notre ligne. Voilà, il y a des matchs où ça nous sourit un peu moins. Voilà, c'est comme tous les domaines, faut qu'on continue tous de bosser parce que si on continue de bosser, on peut avoir des belles surprises et aller prendre vite nos 40 points qui nous mettraient assez rapidement à l'abri. Mais cette année, on a quand même progressé. Je pense qu'on a un peu plus de points que la saison passée à mi-saison à l'extérieur. Donc oui, je vous l'accorde aussi qu'on doit continuer de travailler pour aller prendre plus de points à l'extérieur. Mais on est quand même sur le bon chemin en étant à 26 points au bout de 19 journées. En étant le stade brestois, faut pas oublier d'où on vient non plus.
Gauthier Larsonneur avec Frédéric Suto, Brest 11e de cette Ligue 1 où le trio de tête s'affirme de plus en plus avec Lyon, le PSG donc, et Lille qui a réalisé une nouvelle bonne opération à Nîmes en l'emportant 1-0. Les autres résultats de cette journée entièrement disputés hier, Monaco bat 3-0, Marseille se contente d'un nul 0-0 à Dijon, Montpellier a été accroché à domicile par Nantes 1 partout, Bordeaux domine Lorient 2-1, 1 partout entre Metz et Nice, Strasbourg s'impose à Lorient 1-0, enfin victoire de Reims sur Saint-Etienne 3-1.
Et puis les clubs professionnels en France sont en crise et pensent baisser les salaires des joueurs. Le point avec Zofia Namazian pour RFI.
800 millions d'euros, c'est l'estimation des pertes des clubs de Ligue 1 à la fin de la saison 2020-2021, une situation qui inquiète la DNCG, le gendarme financier du championnat de France. Faute de revenus, la plupart des clubs pourraient connaître la faillite, alors l'instance s'attaque désormais au principal poste de dépense, le salaire des joueurs, car la baisse de la rémunération reste l'option la plus crédible pour revenir à l'équilibre, des salaires qui représentaient 780 millions d'euros en 2019. Le calcul est simple, baisser ses revenus pour garantir un avenir aux clubs professionnels, et pour Jean-Marc Miqueler, le grand patron de la DNCG, une réduction de 30% de la masse salariale permettrait de retrouver l'équilibre. Ne reste plus qu'à convaincre les principaux intéressés. Est-ce que Neymar et ses 39 millions d'euros annuels accepteraient de voir ses émoluments fondre pendant plusieurs mois ? La responsabilité reviendra aux joueurs, mais pour certains dirigeants comme Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, ils seront nombreux à dire oui pour sauver des emplois. La mesure, si elle est acceptée, pourrait aussi avoir un impact sur l'attractivité de la Ligue 1. Si on offre moins aux joueurs, il ira voir ailleurs, peste l'entraîneur de Metz Frédéric Antonetti. Une délégation de présidents de clubs lancera ce mardi les premières négociations avec l'UNFP, unique syndicat des joueurs professionnels, pour sauver le football français.
En Angleterre, troisième tour de la Cup, il y avait quelques matchs dimanche. Le carton de Tottenham contre Marine FC, 5-0. Victoire écrasante de Chelsea contre Morecambe, 4-0. Manchester City a battu Birmingham City, 3-0. Crawley, à la surprise de tous, a battu Leeds 3-0. Newport et Brighton ont fait match nul, un but partout. Hier, lundi, West Ham a battu Stockport 1-0. En Espagne, ce soir, l'Atlético de Madrid, premier au classement, jouera contre Séville, sixième au classement. En Italie, l'Inter Milan, deuxième, et l'AS Rome ont fait match nul. Dimanche, match nul, 2-2. L'AC Milan reste en tête, 3 points devant l'Inter et 6 points devant l'AS Rome. Et ce soir, la Coupe d'Italie, 8e de finale entre l'AC Milan et Torino. En Allemagne, la Coupe, deuxième tour ce soir avec le Bayer Leverkusen qui jouera contre Eintracht Francfort. On passe en Afrique, le foot, le CHAN 2020 s'ouvre le 16 janvier prochain avec le match entre le Cameroun et le Zimbabwe. Un mot de rugby en France, le top 14, 14e journée des matchs retour dimanche. Bordeaux-Bègles a battu Lyon 31-9, Clermont a battu Pau 42-31, Brive a battu Montpellier par un seul petit point 23-22, Toulouse a battu le Stade français 48-24. Le match entre le Racing 92 et La Rochelle a été reporté. Agnès Keleti, gymnaste hongroise, a fêté ses 100 ans samedi dernier, le 9 janvier. Olivier Pron nous raconte son parcours.
Je me sens bien. Le truc, en fait, c'est qu'il ne faut pas se regarder dans un miroir. Agnès Keleti a le visage fripé par les malheurs, les cheveux gris au carré et les yeux qui pétillent comme à ses plus belles heures. Elle est née il y a 100 ans à Budapest et c'est une miraculée. Un siècle au cours duquel, juive, elle échappe à Auschwitz, dont reviendront sa mère et sa sœur, pas son père. Agnès usurpe l'identité et change les vêtements et prend l'accent d'une jeune femme de ménage chrétienne et, ironie du sort, travaille au service d'un général nazi. La guerre finit. Elle reprend sa carrière de gymnaste. Privée des Jeux de Londres en 48 pour cause de blessure, elle brille à ceux d'Helsinki en 52 et surtout à Melbourne en 56. 10 médailles en tout, dont 5 titres. Nous sommes fin 1956. Les troupes soviétiques mettent sous leur coupe la Hongrie. Agnès Keleti décide de ne pas rentrer au pays. Elle reste en Australie, puis file en Israël, dont elle prend la nationalité. Elle ne reviendra à Budapest qu'en 1983, puis définitivement en 2015. Ce samedi, il ne s'agit pas de célébrer l'athlète qu'elle fut, mais la femme de tête qu'elle est encore, à 100 ans, en colère contre ses médecins qui lui ont interdit de faire le grand écart qu'elle faisait encore à la perfection ces derniers mois.
Voilà pour le journal des sports de ce mardi. Comme chaque mardi, nous décryptons l'actualité française. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
À la une, l'épidémie Covid-19 avec le couvre-feu imposé dès 18h dans de nouveaux départements.
Oui, 9 départements de plus qui se voient imposer dès 18h ce couvre-feu. Ce couvre-feu qui, au départ, le 15 décembre dernier, a été pensé pour commencer partout sur le territoire à 20h, de 20h à 6h du matin. Couvre-feu qui est toujours en vigueur partout en France. Mais au regard de la situation sanitaire qui se dégrade toujours et encore, plus de 20 000 nouveaux cas par jour, en moyenne, dans l'ensemble du pays, avec des départements plus touchés que d'autres. Et bien, face à cette situation, le gouvernement a d'abord décidé d'imposer un couvre-feu dès 18h dans 15 départements, décision mise en place depuis plus d'une semaine maintenant, le 2 janvier dernier. Et la liste donc qui s'allonge, 9 départements de plus sont concernés depuis ce dimanche. Alors les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, on est là dans le sud de la France, l'Allier, le Cher, dans le centre, la Côte d'Or, la Drôme, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin. Quand on regarde la carte de France, cela nous montre que la situation sanitaire se dégrade d'est en ouest. Ce sont les départements de l'est de la France qui, depuis plusieurs semaines maintenant, sont les plus affectés par le virus, par la circulation active du virus. Mais le curseur se déplace vers l'ouest. Ces décisions venue d'en haut du gouvernement. Elle suscite beaucoup de réserves dans les départements concernés où les populations l'assimilent à un nouveau confinement. Devoir être chez soi dès 18h, cela implique beaucoup de contraintes. L'ancienne maire de Marseille, Michèle Rubirola, qui est première adjointe, elle vient tout juste de passer la main, a dit son désaccord. Testons-nous, vaccinons-nous, mais ne confinons plus, a-t-elle lancé. Dans la même veine, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Parti des Républicains, parti de droite, c'est insurgé. Toutes les décisions sont prises et nous sont imposées les unes derrière les autres. La concertation est factice, dit-il. Ce manque de concertation, c'est ce qui revient le plus souvent dans le ressenti des élus locaux, car en affichage, le gouvernement, dans ses points Covid quasi quotidiens, à commencer par Olivier Véran, ministre de la Santé, ne cesse de mettre en avant le soi-disant dialogue avec les régions, avec les collectivités locales. Mais ce qui remonte du terrain, c'est tout le contraire, c'est que toutes les décisions sont prises à Paris et qu'elle tombe d'en haut, que les maires des villes concernées n'ont pas leur mot à dire. Alors cela crée beaucoup de ressentis, beaucoup de frustration et l'on retrouve la même dialectique avec la campagne de vaccination qui a été lancée il y a 15 jours. Vous avez des maires qui expliquent qu'ils sont prêts à ouvrir des gymnases, des locaux pour accélérer cette vaccination à grande échelle, qui pour l'instant est partie sur des bases très très lentes en France. Mais pour l'instant, la logistique ne suit pas, même si quelques progrès ont été faits. La France vaccine toujours au ralenti en comparaison avec ses voisins européens.
À propos de cette campagne de vaccination, Anne Hidalgo, la maire de Paris, ne se prive pas d'égratigner l'exécutif.
Ah, elle n'y va pas par quatre chemins. Anne Hidalgo, dans un entretien au journal du dimanche, la maire de Paris, qui dirige la capitale depuis 2014, a eu ces mots. Avec de telles carences, le débarquement de juin 1944 aurait échoué. Utiliser le débarquement des alliés de la Seconde Guerre mondiale comme comparaison, c'est assez osé, mais c'est une façon peut-être de renvoyer Emmanuel Macron, le chef de l'État, à sa propre sémantique. Le président de la République, souvenez-vous, au printemps dernier, au début de l'épidémie de coronavirus, répétait « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Anne Hidalgo le prend au mot et elle met en lumière toutes les carences de l'exécutif de l'État dans la logistique de la vaccination. L'État n'est pas capable de faire le dernier kilomètre, dit-elle, ajoutant « Au lieu de faire appel à des cabinets privés, comme l'a décidé le gouvernement, c'est aux élus locaux qu'il faut faire confiance ». On y revient. Ces élus locaux qui se sentent un petit peu dépossédés de leur rôle. Alors, les détracteurs de la maire de Paris auront beau jeu de souligner que ces attaques sont quelque peu faciles et qu'Anne Hidalgo est là sûrement en campagne électorale, et ce n'est pas complètement faux, mais elle dit ce que pensent beaucoup d'élus. Mais elle est, de plus en plus en campagne, Anne Hidalgo, avec en ligne de mire l'élection présidentielle dans un an et demi, au printemps 2022. Elle réaffirme, quant à cette échéance de 2022, qu'elle y prendra, je cite, « toute sa part ». Elle ne dit pas qu'elle sera candidate, pas encore en tout cas, mais il y prendra toute sa part, précisant « les Français ne veulent pas qu'on les enferme dans un second tour Macron-Le Pen ». Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, le deuxième tour de la présidentielle de 2017. Anne Hidalgo ajoute « que donnerait 5 ans de plus avec Emmanuel Macron depuis 2017 ? Rien n'a changé en mieux ». Fermer les guillemets. Anne Hidalgo, la socialiste qui n'a pas encore fait acte donc de candidature pour 2022. Il faudra pour cela qu'il y ait un espace politique suffisant à gauche qui s'ouvre entre la gauche et les Verts. Il pourrait y avoir un embouteillage de candidatures. Mais disons qu'à lire les propos de la maire de Paris en ce début d'année 2021, on voit bien que sa réflexion est déjà bien engagée.
Pour terminer, la mort de Georges Pernoux.
Oui, Georges Pernoux, l'homme de la mer, l'homme de Thalassa, le magazine Thalassa, magazine de télévision consacré à la mer. Thalassa qui a fait les heures de gloire de France 3. Georges Pernoux l'a présenté, cette émission de 1980 à 2017 avec passion. Georges Pernoud qui s'est éteint à 73 ans des suites d'une longue maladie. Thalassa, au tournant des années 90, était devenu sous sa houlette un rendez-vous incontournable, l'un des plus gros succès d'audience de France Télévisions. Tous les vendredis soirs, hein, des histoires de ports, de marins, des îles, la mer, les mers du monde entier. Georges Pernoud, par sa simplicité, s'invitait dans les foyers et nous raconter bien toutes ces histoires de mer. Thalassa, et vous l'entendez, Thalassa, c'était aussi un générique qui fait partie de l'histoire de l'audiovisuel.
Merci Émile pour avoir décrypté l'actualité française. Bonne journée, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Vous êtes toujours sur SBS, le programme en français. Il est maintenant 13h54, on arrive dans la toute dernière partie de notre émission. Et pour terminer, on va parler musique, et plus précisément d'un morceau, un morceau qui a changé la vie de son compositeur. Il s'agit du titre « La belle vie », écrit par Sacha Distel.
Once upon a song. Comment un instrumental composé pour un film devient un standard américain et change la vie de son compositeur Sacha Distel. En 1961, Sacha Distel est une vedette de la chanson sans pour autant oublier son premier métier de guitariste et compositeur de jazz. C'est ainsi qu'il écrit un instrumental pour le film Les Sept Péchés Capitaux, sept courts-métrages de sept réalisateurs. Son titre, Marina, vient de Marina Vladi, la belle actrice qui incarne l'orgueil pour le réalisateur Roger Vadim. Son parolier habituel n'est pas inspiré par Marina, mais Sacha Distel garde une oreille, un œil sur le business américain. Il a tellement joué de standards venus des États-Unis. Alors il envoie l'enregistrement et la partition à son éditeur à New York et il n'y pense plus. Des mois plus tard, à Bruxelles, il entend sa musique dans un bar. Et c'est Tony Bennett, un crooner qu'il admire, qui chante en anglais sur Marina. Il saute sur un téléphone, appelle New York. On a simplement oublié de le prévenir. Son éditeur avait croisé Tony Bennett, alors à la recherche de chansons pour entrer en studio. Inspiré par l'instrumental, il avait demandé un texte à un parolier américain. Et en quelques semaines, c'est devenu un tube. Et d'ailleurs, Frank Sinatra vient d'annoncer qu'il va enregistrer The Good Life dans un arrangement de Quincy Jones avec l'orchestre de Count Basie. La surprise passée, Sacha Distel fait comme beaucoup d'autres Français avec une chanson américaine. Il commande une adaptation des paroles. Ce sera La Belle Vie qu'il va chanter partout dans le monde, en français comme en anglais. Il l'interprétera aussi en italien et en allemand, et même en polonais. Mais la chanson dit toujours la même chose. La vie est belle quand on est libre, quand on n'est pas obsédé par les grands sentiments. Un message aussi limpide avec un big band qu'avec une guitare jazz. Avec la voix immense de Julie London ou l'émotion de Thomas Dutronc. Avec la classe impeccable de Bobby Darin ou évidemment avec le naturel de ces deux versions originales aujourd'hui célèbres à égalité par Tony Bennett et par Sacha Distel.
Sans amour, sans soucis, sans problème. The good life lets you hide all the sadness you feel. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur... sur les petits matins.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec ce morceau, Something About Us, du groupe Daft Punk. Et puis nous, on se retrouve dans deux jours, jeudi à 13h, pour une nouvelle émission en direct. Et d'ici là, vous pouvez continuer à nous écouter aussi en podcast, en allant sur notre site SBS French, ou bien en vous abonnant à notre chaîne sur vos applications musicales préférées. Passez une excellente journée, et à très bientôt. I might not be the right one, but there's something about us I want to say, 'cause there's something between us anyway. I might not be the right one, it might not be the right time, but there's something about us I've got to do. Some kind.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.